BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il est président de Territoire et Progrès. Bonsoir, Olivier Dussopt.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Petit problème de micro, je vous prie de m'excuser. On va essayer de faire... Voilà, comme ça, ça arrive de temps en temps, c'est les joies du direct. Donc, je disais, Olivier Dussopt, pardonnez-moi, vous êtes ancien ministre du Travail, c'est comme ça qu'on vous a connu ici, et puis vous êtes désormais numéro 2 du parti présidentiel, et président de Territoire et Progrès, qui se veut l'aile gauche de la majorité présidentielle. C'est un lot de consolation quand vous avez, vous n'êtes pas... Si vous êtes un politique, évidemment, parce que vous êtes élu de l'Ardèche. Mais c'est l'autre consolation de vous mettre au parti.
D'abord, vous avez raison de rappeler que je suis élu de l'Ardèche, puisque je suis député de l'Ardèche depuis 2007. Je suis dans mon quatrième mandat. J'ai eu la chance aussi d'être maire pendant 10 ans de ma commune, à Annonay. Et c'est ça le sens de mon engagement.
Et ce n'était pas ma question. Hein. Ma question, c'était sur l'autre consolation.
Bien compris, mais je le rappelle. Ouais. Et j'ai envie de faire un clin d'œil aux Ardéchois. J'ai eu la chance d'être ministre pendant 6 ans, à la fonction publique, au budget, puis au travail. Et à l'occasion du dernier remaniement, je suis sorti du gouvernement et le président de la République m'a demandé, ainsi que le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, de m'impliquer plus fortement dans le parti. Et je le fais pour les mois qui viennent, jusqu'au congrès du mois de novembre.
D'accord, donc c'est une durée limitée. C'est un CDI, c'est un toit. Non, CDD. C'est pour ça qu'on en parlera dans un instant.
Si je peux être utile pendant quelques mois, j'en suis très heureux.
À votre avis, vous avez été sacrifié sur l'autel de quoi, Olivier Dussopt ? On sait que vous avez un procès.
Je sais surtout que j'ai été relaxé, oui.
Vous avez été relaxé, justement. Donc, pourquoi on vous a sacrifié sur l'autel de quoi ?
Un remaniement, c'est toujours un moment compliqué. Ouais. Et les discussions que j'ai pu avoir sur ce sujet avec le président de la République, ce sont des discussions qui nous appartiennent.
Ouais.
Moi, ce que je retiens,
c'est... Non, mais quand même, vous pouvez nous donner une indication. Maintenant, il y a prescription.
Pendant 6 ans, j'ai porté des réformes importantes. La réforme des retraites, celle de l'assurance chômage, celle de France Travail.
C'est
de l'immigration, mais j'ai aussi fait la réforme de la fonction publique, les budgets. J'ai toujours fait avec la confiance du président de la République.
Ouais. Et confiance, il vous a lâché là un peu.
Non, et j'ai toujours, je crois, je suis même sûr d'avoir sa confiance, comme il a la mienne et mon soutien.
Alors justement, ce soir, vous me direz si vous y allez ou pas, il y a une réunion à l'Élysée, parce qu'il y a un peu urgence, branle-bas combat, si vous voulez, sur la question des déficits publics, parce qu'on voit que les finances de la France sont en train de déraper. Le 26 mars, il y a donc l'INSEE qui va faire tomber le couperet pour dire où est-ce qu'on en est à question déficit, et on sera bien évidemment largement supérieur aux 4,9% qui sont prévus dans le budget de 2020, enfin qui était prévu dans le budget 2023. D'abord, vous y allez, Olivier Dussopt ?
Non, c'est une réunion des principaux responsables de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment les présidents de groupe.
Ouais.
Mais quelle est la situation ?
Mais comme vous êtes numéro 2 du parti, vous aurez pu y aller.
Quelle est la situation ? Nous avons une situation des finances publiques qui pose un certain nombre d'interrogations, parce que la fin de l'année 2023 s'est caractérisée par des recettes fiscales en augmentation par rapport à 2022, mais en augmentation moins forte que ce qui était attendu, espéré. Et nous avons pour l'année 2024, notamment du fait du contexte international, une croissance qui sera moins forte que celle qui était aussi espérée. Ce double phénomène fait que vous avez une perte de recettes.
Je vous remercie, jusque-là je pensais le
savoir tout seul. Et quand vous avez une perte de recettes, il faut aussi ajuster le niveau des dépenses. Et c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce qui me paraît nécessaire. Parce que la question des finances publiques, elle est importante. Tout à l'heure, vous rappeliez, et je le soulignais, que j'ai longtemps été élu et que je suis toujours élu en Ardèche. Lorsque j'étais maire de ma commune, une commune de 17 000 habitants, ça reste modeste évidemment, en 10 ans, j'ai divisé la dette de la ville par deux, parce que j'ai fait des économies sur le fonctionnement, parce que j'ai investi plus fortement. Mais aussi parce que
le président aurait dû vous nommer à la tête de Bercy.
Non, toutes les choses ne se comparent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la question des finances publiques n'est pas une question... secondaire ou anecdotique. Les finances publiques, c'est ce qui permet aussi de garantir et de préparer l'avenir.
On peut se demander quand même si ce n'était pas devenu anecdotique, c'est évidemment beaucoup trop fort, mais ça n'avait pas été relayé au second plan lorsqu'on voit l'état des finances publiques aujourd'hui. Vous avez donné des explications, certes, enfin quand même, il y a un dérapage.
Il y a une crise du Covid, il y a une crise de l'inflation,
il
y a une crise énergétique.
Pour tous les autres pays de l'Union Européenne.
Et il y a aussi un niveau finalement de dépenses publiques en France qui est supérieur à la moyenne.
Et pourquoi rien n'a été fait depuis 7 ans ?
Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. Je rappelle, parce que c'est important, que lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a pris un certain nombre de décisions avec les gouvernements qui l'accompagnaient, qui ont permis à la France, pour la première fois, de respecter son engagement de 3%. Et ensuite est survenue la crise du Covid qui a évidemment mis à mal les finances publiques. Et j'étais au budget à ce moment-là, j'ai pu le mesurer très concrètement. Mais le gouvernement et la majorité d'Emmanuel Macron est la seule majorité qui avait tenu ses objectifs et qui tiendra...
Ok, mais enfin, c'était comme vous dites, c'était il y a très longtemps.
C'était en 2020, le Covid, c'est 2020, 2021, ça ne fait pas si longtemps que ça.
C'était les premières années
au-delà
du quinquennat.
Au-delà des éléments de conjoncture sur la question de l'inflation, sur la question de la guerre en Ukraine. Nous avons un pays qui se caractérise par un niveau de dépenses publiques supérieur à la moyenne.
Oui, et nous payons, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à réduire les dépenses publiques?
Parce que si j'arrive à aller au bout de la phrase, j'aurais peut-être amené une explication.
Oui.
Nous avons fait un choix, pas nous, pas cette majorité, pas ce gouvernement, les Français collectivement, et un choix depuis des décennies, qui est un choix de socialiser un très grand nombre de dépenses. Il y a des pays dans lesquels l'impôt est moins élevé, les dépenses publiques sont moins élevées, parce qu'un certain nombre de fonctions, un certain nombre de services, qui chez nous sont des services publics ou quasiment publics, avec des niveaux de subventions aux associations importants, sont pris en charge par les usagers et non pas par le contribuable. Et donc ça explique aussi ce niveau de dépenses. Oui, moi ce que je crois, c'est que les mesures annoncées par Bruno Le Maire sont des mesures qui sont utiles, qui sont nécessaires.
Bien sûr, mais c'est du rabot, puis c'est toujours sur les mêmes. Alors on va y revenir.
Il faut tenir le cap. Et puis, il y a une deuxième priorité, mais qui est partagée par l'ensemble de la majorité, c'est que lorsque vous êtes dans une situation difficile en matière de finances publiques, il faut jouer sur les dépenses, il faut aussi jouer sur les recettes. Et jouer sur les recettes, c'est avoir de la croissance.
D'accord.
Et parce qu'avec la croissance, vous avez aussi de la croissance de recettes.
Olivier Dussopt, pardonnez-moi, je vous interromps, mais parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc c'est pour ça. Lorsque vous pensez qu'on va atteindre les 5,5, non, ça va déraper jusqu'au 5,5.
La prévision de déficit pour 2023, c'est 4,9%.
Oui, c'est ça. Non, mais
Bruno Le Maire a dit dans une interview récente
dimanche,
que la baisse des recettes fiscales en fin d'année allait très certainement amener le déficit à un niveau supérieur.
Ouais. C'est l'INSEE. Ok, mais je vous demande si vous avez en tant qu'un du budget, vous avez une estimation.
J'ai une idée, pas une estimation, mais c'est l'INSEE qui rend ses chiffres publics.
Le 26 mars.
Donc il faut respecter le travail de l'Institut statistique. Et je partage évidemment ce qu'a dit Bruno Le Maire lorsqu'il a dit que ça serait significativement supérieur.
Ouais. Lorsqu'il dit qu'il faut remplacer, c'était dans l'interview que vous m'enseignez à l'instant, il faut remplacer l'État-providence par l'État protecteur, car la gratuité de tout pour tous tout le temps, c'est intenable. Il a raison de dire ça ?
La gratuité, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Mmh. Et je partage son sentiment à ce sujet-là. Ouais. Quand un service est présenté comme gratuit, il y a forcément quelqu'un qui le paye. Si ça n'est pas l'usager, c'est le contribuable. Et donc, ça renvoie à ce que je disais il y a un instant. Le fait que, collectivement, nous avons fait un certain nombre de choix qui s'expliquent, qui s'entendent, qui ont très certainement des vertus en termes d'objectifs et qui nous amènent à un niveau de dépense publique très important. Veillons à ce que cette dépense soit maîtrisée et veillons à ce que nous ayons des recettes qui soient...
Il fallait peut-être veiller un tout petit peu
avant. Je donne
un
chiffre, pardonnez-moi, mais je donne un chiffre et je sais que vous
on
y êtes
on va passer sur l'assurance chômage, justement. Non,
si nous avions le même niveau de production de richesse par habitant qu'un pays comme l'Allemagne ou le Danemark, nous aurions 200 milliards d'euros au moins de recettes supplémentaires et nous n'aurions plus de problème de déficit public. Mmh. Et jusqu'à preuve du contraire, ni l'Allemagne ni le Danemark ne sont des îlots de servitude ou des endroits où il fait mal vivre. Et donc, prenons exemple, améliorons notre productivité, soutenons l'investissement pour faire en sorte qu'il y ait de la croissance et des recettes.
Ben oui, mais il y a un gouvernement non, pour ça. Vous connaissez la phrase, d'après le Canard enchaîné, Emmanuel Macron, il aurait dit à propos du livre qui est publié, que je montre pour ceux qui nous regardent à la télévision, Bruno Le Maire, qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle La Voix française. C'est une proposition très intéressante. Il devrait en parler avec le ministre de l'Économie et des Finances.
Non, je ne l'ai pas lu.
Bon, aujourd'hui, autre réunion très importante, c'est l'avant-dernière réunion sur le projet d'accord vie au travail sur l'emploi des seniors. On voit bien qu'il y a différentes propositions sur la table, qu'a fait notamment les patronats. Et puis, il y a les syndicats qui ont dit, les CDI seniors, pour nous, c'est un casus belli, il en est hors de question. Pour vous, est-ce que vous considérez quand même que c'est peut-être ça qui peut faire avancer?
Je pense que cet accord sur l'emploi des seniors, je l'ai initié lorsque j'étais ministre du Travail. Je pense que tous les outils qui permettent de faciliter le maintien dans l'emploi et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi âgés ou seniors sont de bons outils. Nous avons Et ça rejoint ce que je disais il y a un instant sur le niveau de production de richesse dans notre pays. Nous avons un taux d'emploi des plus de 50 ans et des plus de 55 ans qui est beaucoup, beaucoup plus bas que la moyenne européenne. Oui. Et donc, il faut travailler sur la qualité de l'emploi, il faut travailler sur la formation et les reconversions, il faut travailler sur la gestion des carrières, et ça renvoie notamment à des idées, des outils comme le compte épargne temps universel. Et puis, il y a une proposition portée par certaines organisations patronales qui avait été portée par le Sénat à l'occasion de la loi sur l'assurance chômage, qui consiste à dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que lorsqu'une entreprise recrute un demandeur d'emploi de plus de 55 ou de plus de 57 ans en CDI, il y ait un encouragement et une aide fiscale ou financière pour cela. Ça faisait partie des pistes. Oui. Les organisations syndicales et patronales en discutent. Et la dernière réunion de discussion, qui devrait être, nous l'espérons, conclusive, c'est la semaine prochaine. Il y a d'autres enjeux dans cet accord sur l'emploi des seniors. Il y a maintenant plusieurs semaines, lorsque début décembre, les mêmes partenaires sociaux se sont mis d'accord sur la convention UNEDIC, les règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Ils ont inscrit dans cette convention, dans le tableau financier, une économie qui en réalité concerne, enfin, en tout cas correspond au fait de décaler de 53 à 55 ans et de 55 à 57 ans, les âges à partir desquels vous avez une durée d'indemnisation à l'assurance chômage qui est majorée. Oui. Cela représente une économie de plus de 400 millions d'euros sur 3 ans. Ils n'ont pas inscrit dans l'accord écrit, le décalage de ces bornes d'âge,
bien qu'on sûr, appelle les bornes absolument, d'âge. Absolument, tout à fait, donc, oui.
C'est ce qui nous avait amené, avec Elisabeth Borne, qui était alors Première ministre, à ne pas agréer la convention, mais à dire aux partenaires sociaux, pardon, je vais au bout parce que c'est important, à dire aux partenaires sociaux, si dans le cadre de l'accord sur l'emploi des seniors, vous décalez ces bornes d'âge de 53 à 55 et de 55 à 57, ça nous permettra d'agréer la convention.
Voilà, donc ça veut dire que, parce qu'en résumé, pour l'instant, les syndicats sont contre, hein, toujours. Donc c'est pas dans l'accord. A priori, enfin, on va voir ce soir. Hein.
On verra dans les jours qui viennent.
Ça veut dire que donc l'État, à votre avis, à ce moment-là, il ne va pas agréer l'accord.
On verra, ne préjugeons pas de la fin d'une discussion.
Mais, ok, mais enfin, non, mais imaginons, il faut bien faire les scénarios, les législateurs.
Ma successeur, Catherine Vautrin, prendra les décisions et les bonnes décisions qui s'imposent.
Mais vous, qu'êtes-ce que vous pensez dans ces cas-là? Vous êtes un peu en dehors du jeu, donc vous pouvez nous répondre.
Il y a un fait que j'avais dit, tout simplement, et que nous avions dit il y a plusieurs mois. La convention de gestion de l'UNEDIC, elle ne peut être validée que si les économies qui sont inscrites, les mesures financières, sont appuyées sur des décisions et sur des dispositions écrites. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que l'équilibre financier qui apparaît dans le tableau n'est pas documenté, pour reprendre un terme technique et du ministère du budget. Ça rend les choses plus compliquées. Mais gageons que les partenaires sociaux y arrivent. Le sujet de l'emploi des seniors est une priorité absolue, à la fois parce que c'est important en matière de lutte contre le chômage, mais parce que, comme je disais, c'est important pour la production globale de richesse.
Mais il faut changer aussi les mentalités, et ça prend du temps, ça c'est clair. Justement, à propos sur l'assurance chômage, le fait de décaler les règles d'indemnisation des chômeurs seniors, est-ce que pour vous, est-ce que ça justifie la déclaration, là encore, de Bruno Le Maire, qui dit il faut c'est à l'État de gérer ça, il faut que l'État reprenne en main, je prends son expression, l'assurance chômage. D'autres disent, ben voilà, c'est l'étatisation de l'assurance chômage.
Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la question des règles d'indemnisation. Mm-hmm. Et donc, il y a des règles de durée, il y a des règles d'augmentation de la durée pour les seniors. Puis il y a un deuxième, et c'est ce sur quoi les organisations syndicales et patronales ont travaillé avec cette suite qu'ils doivent avoir dans l'accord sur l'emploi des seniors s'il aboutit. Puis il y a un deuxième sujet qui est celui de la gouvernance, donc de la gestion globale de l'assurance chômage, de la place de l'État.
Oui, mais qui peuvent être liés, vous voyez bien le lien.
De la place des partenaires sociaux. Moi, je pense que ce débat sur la gouvernance, il est important. Et lorsque j'ai été nommé ministre du Travail en 2022, tous les partenaires sociaux disaient que c'était un débat important, celui de la gouvernance sur l'assurance chômage. Et beaucoup le disaient en assurant, et je partage cette affirmation, que progressivement, et la dernière étape importante, c'est 2018, lorsqu'on a supprimé les cotisations chômage sur les cotisations salariales en matière d'assurance chômage, progressivement, une partie des cotisations et des recettes de cotisations ont été remplacées par des recettes fiscales versées par l'État. Donc, dès lors que l'État a un poids par des recettes fiscales aussi importants, ça pose des questions sur le rôle et la place de l'État.
D'accord, mais enfin, vous voyez, aboutir, c'est quand même un peu la négation de tout le système paritaire.
Non, je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs scénarios. Je pense qu'une réforme de la gouvernance est utile, nécessaire. Ça ne peut pas se faire sans une négociation préalable des partenaires sociaux. Donc, toutes les propositions peuvent être faites. À titre personnel, Je pense qu'un bon projet de gouvernance, une bonne réforme de la gouvernance, serait de dire que le Parlement, quand on dit l'État, ça n'est pas forcément le gouvernement, ça peut être le législateur, que le Parlement, à intervalles réguliers, tous les 3 ans, peut-être tous les 5 ans, fixe des orientations en matière de politique d'assurance chômage, et que dans le cadre de ces orientations, les partenaires sociaux assurent la gestion du régime, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. C'est une façon de donner à l'État et au Parlement une prérogative en matière de détermination des priorités.
C'est plus souple, c'est moins provocant.
Et
c'est moins...
les partenaires sociaux assurent ce qu'on appelle parfois du paritarisme de gestion. Mais c'est une position personnelle. Et je le répète, ce débat sur la gouvernance, à mon sens, il est majeur. Mais c'est un débat qui, au titre du Code du Travail, de l'article L1 du Code du Travail, doit être un débat de partenaires sociaux avant que le Parlement prenne la main.
Puisqu'on est dans les objectifs un peu inatteignables, hein, on parlait des déficits publics, est-ce que pour vous, l'objectif du plein emploi reste atteignable?
Alors,
donc en 2027, lorsqu'on voit la conjoncture de 2024.
De 2024 et de 2023. L'économie, française,
bien sûr, mais enfin,
l'économie française a créé de l'emploi en 2023, au premier semestre. Et le nombre d'emplois créés au second semestre est en fait un solde nul. Il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de création. Et donc, évidemment, quand on voit cette conjoncture, on se dit que les choses sont plus difficiles. Ça reste atteignable. Ça reste atteignable et ça doit rester un objectif prioritaire. Parce que même si
ça reste atteignable à quel point,
enfin, même si c'est un peu plus difficile parce que la conjoncture s'est dégradée, si vous baissez la garde sur ce sujet-là, vous êtes sûr de ne jamais atteindre vos objectifs. Et donc, il faut continuer à travailler pour de la création d'emplois et donc de l'activité. Il faut continuer à simplifier un maximum de règles pour faire en sorte que toutes les procédures d'embauche soient plus faciles et que les entreprises soient sécurisées. Il faut continuer à former les demandeurs d'emploi. Il y a des chiffres qui montrent que ça marche. On a un outil, la France a un outil qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences, qui consiste à financer des formations pour les demandeurs d'emploi. Et bien, imaginez que lorsque un demandeur d'emploi senior, pour reprendre cet exemple, suit une formation dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, son taux de retour à l'emploi augmente de 17 points par rapport aux chômeurs du même âge qui n'a pas suivi de formation qualifiante. Donc ça montre que ça marche.
La formation est importante, puis en même temps on rabote aussi un peu la formation parce qu'il faut bien faire des économies levier. Dis ça, toute dernière question, parce que juste l'enjeu des européennes, puisque vous allez être un peu mobilisé sur cette question des européennes, l'enjeu pour le parti présidentiel, c'est quoi? C'est de un peu d'évacuer le sentiment, c'est toujours un peu on vote contre le gouvernement.
C'était une campagne européenne.
Ouais.
Une campagne européenne avec un projet européen sur des questions de souveraineté, sur des questions de droit.
Mais les jeunes Français ne vont pas forcément voter pour ça.
A déjà dit combien nous voulions inscrire dans la Charte européenne des droits fondamentaux la question de l'IVG, que nous avons déjà inscrite dans la Constitution. C'est faire cette campagne sur un projet européen, mais faire une campagne sur un projet européen et sur ce que font les députés européens au Parlement européen, c'est aussi dire ce que ça signifie sur la scène politique internationale, la scène politique intérieure. Quand le Rassemblement national à Bruxelles n'est jamais capable de voter la moindre résolution contre Vladimir Poutine, ça dit beaucoup de leur politique étrangère si par malheur ils étaient au pouvoir. Et donc il faut à la fois démontrer ces impostures et en même temps faire une campagne sur un projet et sur nos priorités pour l'Europe.
Merci beaucoup.
Merci.
Olivier Dussopt, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci d'avoir été avec nous, donc ancien ministre du Travail, du Budget évidemment, et président de Territoires et Progrès, numéro 2 du parti présidentiel. Merci beaucoup.